France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les oracles avaient la dent dure. Ils pouvaient s'attacher à un pays et ne pas le lâcher, en le faisant passer par mille épreuves de génération en génération. C'était spectaculaire quand ce pays était un grand royaume actif, en pleine expansion. L'équilibre du monde, la géopolitique, dépendait alors des oracles, ou plutôt de la manière dont on les sollicitait, dont on les utilisait, les interprétait. Le dieu parlait. Il disait ce qu'il avait à dire, parfois en riant, avec le sourire. Un dieu peut parler par énigme, et il laisse son interlocuteur humain se débrouiller comme il pourra.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Aujourd'hui, nous allons suivre ce que l'oracle d'Apollon a fait vivre à un grand royaume et à ses rois, le royaume de Lydie. Ce ne sera pas en Grèce, mais en Asie, dans la Turquie actuelle. L'histoire débouchera sur ce qui est arrivé au roi Crésus, le roi bien connu, qui a été très riche, extrêmement riche, ce qui est normal après tout, puisqu'il était riche comme Crésus. Il croyait être l'homme le plus heureux de tous les temps. Mais, à cause des oracles, ça a très mal tourné pour lui. On donnera donc comme titre à cet épisode « Pauvre comme Crésus ». Cette fois, il ne s'agira pas de mythes, de légendes, mais de l'histoire réelle. Enfin, c'est ce que nous dit un historien, déjà croisé ici plusieurs fois, l'historien Hérodote, auteur d'une très longue et très précise enquête au 5e siècle avant Jésus-Christ. Enquête se disait historia, c'est-à-dire le fait de chercher à savoir, de s'informer. Le mot a pris le sens de résultat de l'enquête. De là vient un autre mot, histoire. En fait, chez cet historien Hérodote, il y a beaucoup de légendes, de mythes dans son histoire. On ne sera pas complètement dépaysé.
Jacques Lacarrière, écrivain.
Hérodote est le premier qui a eu la curiosité d'aller sur place pour voir si les récits fabuleux ou les récits que l'on tenait pour fabuleux coïncidaient avec la réalité. Disons qu'au fond, ce fut un expérimentateur de la géographie. C'est une enquête ethnologique, on pourrait même dire par certains côtés que c'est une enquête policière, puisque Hérodote s'acharne d'ailleurs avec des moyens dont il ne dispose pas à résoudre des énigmes de l'Antiquité, savoir si telle femme de roi a bien trompé son mari, savoir si tel roi dit légitime est bien le fils d'un tel. Dans tout ce qui est proprement historique, Hérodote n'a pas toujours été un témoin sûr. Il a un petit peu rapporté les ragots de l'Antiquité, c'est-à-dire ce que les guides, ce que les gens de rencontre pouvaient lui dire sur les histoires locales. Mais quand il décrit les peuples, quand il décrit les continents, quand il décrit la façon de vivre des populations au milieu desquelles il séjourne, là, il fait un travail stupéfiant d'ethnologue et de géographe consciencieux.
Hérodote, dans son enquête monumentale, veut comprendre l'immense événement que vient de vivre la Grèce. Événement qui a tout changé. La guerre, ou plutôt les guerres, qui ont opposé pendant des années la Grèce et l'Empire perse. La Grèce a gagné, mais le choc a été gigantesque. La victoire finale des Grecs a eu lieu 5 ans après la naissance d'Hérodote, l'historien, né en 485 avant Jésus-Christ. Avec les deux grandes batailles extrêmement meurtrières, que furent la bataille de Salamine sur mer et la bataille de Platée sur terre. Hérodote veut que le souvenir de cet affrontement titanesque ne s'efface pas.
Hérodote de Thurioi expose ici ses recherches pour empêcher que ce qu'ont fait les hommes avec le temps ne s'efface de la mémoire et que de grands et merveilleux exploits accomplis tant par les barbares que par les Grecs ne cessent d'être renommés. En particulier, ce qui fut cause que Grecs et barbares entrèrent en guerre les uns contre les autres.
Hérodote ne se contente pas de raconter les événements. Il analyse, interprète le contexte global de cet affrontement en décrivant l'état du monde pris dans sa globalité, en enquêtant sur l'ensemble des pays, grecs et non grecs, barbares comme on disait, qui ont été le cadre et les acteurs de ce conflit quasi mondial du point de vue grec. Hérodote reconstruit les histoires, les coutumes, les religions, les mythes de chacun de ces pays, Parfois, de la légende, des on-dit bizarres se mêlent à l'analyse historique. Pour Hérodote, il s'agit moins de donner des preuves que de faire comprendre les raisons, l'enjeu de ce conflit gigantesque. L'histoire commence en Lydie, car c'est de là que sont parties les premières actions hostiles de l'Asie contre les Grecs, plusieurs siècles après la guerre de Troie. La Lydie était un grand royaume d'Asie mineure, en pleine expansion, qui, au mieux de sa forme, allait de la côte ouest de la Turquie, jusqu'à loin dans les terres, jusqu'au fleuve Halys et jusqu'à la mer Noire. La capitale était Sardes. La Lydie a lancé les premières attaques contre les villes grecques qui s'étaient installées sur la côte. L'histoire de ce royaume n'est pas triste. Ça commence par Héraclès. Vous vous souvenez peut-être, le grand héros surmasculin a dû passer à cause d'un meurtre qu'il avait commis. Une année d'esclavage au service d'une femme, la reine Omphale. À la cour de cette reine, Héraclès portait des habits féminins pendant que Omphale se montrait avec la peau de lion et l'énorme massue d'Héraclès. Cet échange vestimentaire n'a pas empêché Omphale et Héraclès d'avoir un fils. Un oracle décréta que ce fils devait régner sur le pays. Les descendants d'Héraclès, les Héraclides, régnèrent sans discontinuer pendant 500 ans sur la Lydie. On arrive au 7e siècle avant Jésus-Christ, selon notre calendrier à nous, pas celui d'Héraclès et de ses descendants. Ça va se gâter sérieusement pour la lignée d'Héraclès. Une petite histoire absurde, mesquine, de voyeurisme nocturne, va décider du cours de l'histoire mondiale, selon ce que raconte l'historien Hérodote. Le dernier descendant d'Héraclès en ligne directe s'appelait Candaule, un roi très fier et très amoureux de son épouse.
Il pensait posséder la plus belle femme du monde.
On ne connaît pas le nom de cette femme, mais elle va jouer un très grand rôle. Le roi Candaule est tellement fier qu'il vante la beauté de son épouse auprès de l'un de ses gardes du corps, un dénommé Gygès, Gugès, qui était son favori. Il pense que ce garde du corps ne peut pas le croire quand il fait l'éloge de sa femme. Elle est incroyablement belle. Gygès ne peut en avoir idée. Or, Candaule veut absolument être cru et il veut être célébré pour la beauté de son épouse. Sa supériorité de roi sera ainsi reconnue. Il faut donc que Gygès constate par lui-même. Il faut qu'il voie cette femme telle qu'elle.
Gygès, je pense que tu ne me crois pas quand je parle de la beauté de ma femme. C'est que les oreilles des hommes sont plus incrédules que leurs yeux. Fais donc en sorte de la voir toute nue.
Gygès n'est pas fou. Il refuse, craint un malheur pour lui. Il tente de rappeler des préceptes élémentaires de morale au roi Candaule.
Depuis longtemps, les hommes ont découvert les sages préceptes qui doivent servir à leur instruction. L'un de ces préceptes est celui-ci. Que chacun ait les yeux sur ce qui est sien.
Candaule, sûr de lui, ne tient pas compte de cette morale. Il ne comprend pas que par son orgueil démesuré, il se condamne aux yeux des dieux.
Car le destin voulait qu'il arrive malheur à Candaule.
Candaule garantit à Gygès que la reine ne saura rien, qu'elle ne saura pas qu'elle a été vue. Il imagine tout un stratagème pour que la reine se déshabille et se couche sans se rendre compte qu'elle est vue par un tiers. Gygès sera caché par un battant de porte. Gygès cède. Le coucher a lieu. Il semble se passer comme Candaule l'avait prévu, sauf que...
Gygès la regarda, et lorsqu'il se trouva dans son dos, au moment où elle se dirigeait vers le lit, il se glissa de sa cachette et gagna le dehors. La femme l'entrevit comme il sortait. Mais bien qu'elle s'aperçût de ce qu'avait fait son mari, elle ne poussa pas de cri de honte et fit semblant de ne s'apercevoir de rien, ayant l'intention de se venger de Candaule. Car chez les Lydiens, comme aussi chez les autres barbares en général, être vu nu est, même pour un homme, chose qui induit en grande honte.
La reine attend le lendemain. Elle convoque Gygès. Elle est très claire. Ou Gygès tue le roi, qui l'a trahi, ou elle le fait tuer lui, Gygès.
La femme lui dit.
Maintenant, Gygès, de deux routes qui s'offrent, je te donne à choisir celle où tu veux t'engager. tue Cadol et sois possesseur de ma personne et de la royauté des Lydiens. Ou bien c'est toi-même qui dois périr sur l'heure, pour ne plus désormais, en obéissant en toute chose à Candol, voir ce qui t'est interdit. »
Gigès réfléchit un peu, pas trop. Le soir, il se met à nouveau dans sa cachette, attend et tue le roi. Il épouse la reine et règne sur la Lydie. Il y a un début de lutte politique. Candol avait ses partisans qui ont pris les armes pour s'opposer à la prise du pouvoir par Gigès. La guerre civile menace. Les Lydiens interrogent alors Apollon à Delphes, qui doit les départager. S'il désigne Gigès, Gigès sera roi. La pitié se prononce clairement pour Gigès. Les descendants d'Héraclès, les Héraclides, ne règnent plus sur la Lydie. Candol était le dernier. Mais la pitié de Delphes ajoute une prédiction menaçante que les Lydiens vont vite oublier. Or, elle va se réaliser.
Toutefois, la pitié ajouta que les Héraclides seraient vengés sur le quatrième descendant de Gigès. Mais ni les Lydiens, ni leur roi ne tinrent compte de cette prédiction avant qu'elle ne fût accomplie.
Gigès fut un roi habile, puissant et devint très riche. Il agrandit le royaume de Lydie. Reconnaissant envers le dieu Apollon, il envoya à Delphes de merveilleux trésors d'or et d'argent, notamment 6 très grands cratères en or, des vases où on mêlait le vin, nous dit Hérodote. Ce Gigès a bien existé. Sa richesse était proverbiale et suscitait des jalousies. Archiloque, le poète grincheux qui n'arrête pas de râler, se moque de ce luxe. Dans un poème, il fait parler contre Gigès un charpentier qui ne devait pas être bien riche.
Rien de ce Gigès couvert d'or ne compte pour moi. Jamais la jalousie ne me prit, et je n'en vis pas ce que les dieux ont accompli. Je n'ai aucun désir pour la grandiose tyrannie, car elle est loin de mes yeux.
Si la richesse n'est pas vue des pauvres, les pauvres ne sont pas jaloux. Le problème aujourd'hui, c'est que les très riches se montrent partout.
Je vais tous les niquer, toujours plongé dans le CAC 40, pour mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé, dans des hôtels et des cocktails. La vie est belle, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de chien, même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis un tueur. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute. J'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse et pas de contentieux. Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible, un peu de vent dans ton corsage. Je t'imagine sur la plage. Elles deviennent toutes folles de mon corps. Je suis trop fort. Parfois quelques chômeurs, je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je vis dans le présent, j'aime un veau d'or, une vache à lait, mais j'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%. J'ai choisi la bourse et la vie, je suis pas Nasdaq.
France Inter,
Dac.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe raconte comment l'orgueil a perdu le roi Candole, trop fier de son épouse.
Platon, le philosophe, a déniché une toute autre version de l'histoire de Gigès. Elle a peu de chances d'être vraie historiquement. Beaucoup de magie s'y mêle. C'est l'histoire de l'anneau de Gigès. Gigès, dans cette histoire, n'appartenait pas à la cour de Candole. Il était un berger qui travaillait pour le roi. Un jour, lors d'un orage, la terre tremble et s'ouvre en une grande crevasse. Gigès, qui gardait son troupeau, va voir. Ce qu'il découvre est incroyable.
Un cheval de bronze creux, percée de petites ouvertures à travers lesquelles, ayant glissé la tête, il aperçut un cadavre, qui était apparemment celui d'un géant. Ce mort n'avait rien sur lui, si ce n'est un anneau d'or à la main, que Gigès prit avant de remonter.
Gigès passe l'anneau à son doigt et le manipule machinalement. Il s'aperçoit qu'il devient invisible dès qu'il tourne le chaton vers l'intérieur de sa main. S'il remet le chaton à sa place normale, il redevient invisible. Quelle aubaine ! Devenir l'homme invisible quand on veut. Gigès comprend le profit qu'il peut tirer de cet anneau fabuleux. Il s'arrange pour faire partie de la délégation de bergers qui devait être envoyée comme chaque année auprès du roi pour discuter de la gestion des troupeaux. Alors, tout s'enchaîne.
Parvenu au palais, il séduisit la reine. Avec sa complicité, il tua le roi et s'empara ce faisant du pouvoir.
Platon raconte cette histoire dans son dialogue « La République » qui traite de la question de la justice. Car l'anneau de Gigès pose un problème philosophique difficile qui mérite un petit détour. Imaginons, dit Platon, qu'il y ait deux anneaux magiques comme celui de Gigès. L'un au doigt d'un homme juste, l'autre au doigt d'un homme injuste. L'homme injuste s'en servira évidemment pour commettre ses injustices. Mais l'homme juste, que fera-t-il ? La réponse donnée n'est d'abord pas favorable à la justice.
Il n'y aurait personne, semble-t-il, d'assez résistant pour se maintenir dans la justice et avoir la force de ne pas attenter au bien d'autrui et de ne pas y toucher, alors qu'il aurait le pouvoir de prendre impunément au marché ce dont il aurait envie, de pénétrer dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait et de tuer les uns, libérer les autres de leurs chaînes selon son gré, et d'accomplir ainsi dans la société humaine tout ce qu'il voudrait à l'égal d'un dieu.
Il n'y aurait donc plus de différence entre l'homme juste et l'homme injuste. Et c'est la preuve que nous ne sommes pas justes ou injustes par notre choix, mais en raison de nos possibilités matérielles. Platon s'est imposé à lui-même un problème très ardu qu'ont discuté les philosophes pendant des générations. Il n'est sans doute pas encore résolu. Juste ou injuste, plutôt injuste, Gigès établit une dynastie solide. Il agrandit le royaume de Lydie et fit la guerre contre les villes que des colons grecs avaient fondées sur la côte, Mylae, Smyrne, qui avait été, d'après la légende, la ville d'Homère. À la quatrième génération, celle qui devait être fatale selon l'oracle de la Pythie, vint au pouvoir un descendant de Gigès, Crésus, qui avait 35 ans. Il enrichit encore le royaume de Lydie, fit la paix avec les Grecs qui habitaient les îles en face de la côte, et développa sa ville, Sardes, et son palais, qui devenait spectaculaire. Les Grecs, admiratifs, venaient visiter ses trésors. Crésus était fier de les montrer, comme autrefois le roi Candole tenait absolument à faire voir la beauté de son épouse. Et il tomba pour cela. Crésus avait le même orgueil. Très riche, il pensait qu'il était l'homme le plus heureux du monde. Un jour, arrive à son palais un sage athénien, le grand Solon. Cet homme avait donné ses lois, ses institutions à la ville d'Athènes. Il avait essayé d'éviter à sa ville de tomber dans la tyrannie. Solon, le sage, était très respecté. Mais il savait que son œuvre politique était précaire, qu'elle pouvait à tout moment vaciller. Crésus, le roi si fier, si gonflé d'orgueil, pouvait l'impressionner, mais pas au point qu'il l'approuve. Crésus fit voir toutes ses richesses à Solon et lui demanda qui était l'homme le plus heureux du monde. Les réponses de Solon déçurent horriblement le pauvre Crésus. Solon cita en premier un quasi inconnu, un Athénien qui avait eu de beaux enfants et qui était mort bravement au combat. Il fut très honoré par la cité. Déception de Crésus qui pose la question. Et en deuxième, Solon nomme deux jeunes gens, Cléobis et Biton, très méritants. Leur mère devait absolument être portée sur un char pour participer à une cérémonie en l'honneur de la déesse Héra dans son temple d'Argos. Mais les bœufs qui devaient tirer le char n'arrivaient pas. Les deux fils se mirent sous le joug et emportèrent le char sur une très longue distance. À l'arrivée, ils étaient fourbus. La mère, en extase devant ses fils, demanda à la déesse Héra de leur accorder ce qu'il y a de mieux pour des humains. Les jeunes garçons Cléobis et Biton s'endormirent et ne se réveillèrent pas. C'était ce qu'il y avait de mieux, car la mort, n'est-ce pas, est la délivrance absolue. Ça reste quand même à vérifier. Cette fois, Crésus est en colère. Solon lui fait la leçon. Crésus est peut-être très prospère, bien loti, mais c'est le dernier jour qui compte. Avant, on ne peut pas dire si quelqu'un est vraiment heureux pour de bon.
Tu m'apparais comme le possesseur de beaucoup de richesses, le roi de beaucoup de sujets. Mais ce que tu m'as demandé, suis-je heureux ? Je ne peux encore dire que tu le sois, avant d'avoir appris que tu aies terminé tes jours dans la prospérité. L'homme très riche, en effet, n'est nullement plus heureux que celui qui vit au jour le jour. Si la chance ne l'accompagne pas et ne lui donne pas de bien finir sa vie au milieu d'une prospérité complète. Bien des hommes puissamment riches sont sans bonheur, tandis que beaucoup d'autres, disposant de médiocres ressources, ont à se louer de leur bonne fortune.
Un bon exemple de sagesse grecque. Crésus n'est pas content du tout.
Crésus le congédia, persuadé que c'était sottise de dédaigner les biens présents et d'inviter à voir la fin de toute chose.
Mais justement, Crésus n'aura pas une fin heureuse, précisément parce qu'il n'aura pas su anticiper la fin. C'est une histoire de rêve prophétique et d'oracle mal compris. Les dieux vont s'amuser avec Crésus pour son malheur. Hérodote dit que la justice divine va le frapper. Il suppose qu'elle l'a puni de s'être cru le plus heureux des hommes. Une nuit, Crésus fait un cauchemar. Il rêve qu'un de ses fils va être blessé et tué par une arme en fer. Peur de Crésus, qui vide son palais de toutes les armes comprenant du fer. Ce fils a un grand ami qui veut le faire participer à une chasse aux sangliers. Crésus, évidemment, refuse. Mais le fils réplique que les sangliers ne portent pas de fer et se défendent avec des dents d'ivoire. Il ne risque donc rien. Crésus se laisse convaincre. Mais au cours de la chasse, le fils est blessé par la lance de son ami, qui rate le sanglier et s'abat sur lui. Cette lance avait une pointe en fer. Le fils meurt. Crésus reste affligé, accablé et inactif pendant 2 années. Mais il est réveillé par un danger pressant, l'Empire perse, qui a son cœur dans l'Iran actuel, bien à l'est de la Lydie, multiplie les conquêtes. Les Perses se rapprochent dangereusement du royaume de Lydie. Crésus sait qu'il sera la prochaine proie. Il faut réagir. Mais que faire ? Faut-il prendre les devants et attaquer la Perse ? C'est très risqué. Crésus se dit que la chose la plus intelligente à faire est d'interroger les dieux. Mais lequel ? Consulter un oracle ? Il y en a beaucoup. Lequel dit la vérité ? Crésus, qui se croit très rusé, décide de mettre à l'épreuve tous les grands oracles connus. Il envoie à tous une question difficile. Il envoie une foule d'émissaires dans chacun des sanctuaires qui délivraient des oracles, aussi bien ceux de Lydie que de Grèce. Un de ces oracles mérite d'être mentionné, tant il est pittoresque et impressionnant. C'est celui du héros Trophonios, en Béotie. Trophonios était l'un des architectes du temple d'Apollon à Delphes. La consultation de cet oracle était un véritable passage par la mort. Le héros du lieu, Trophonios, provoquait des hallucinations. Le consultant, habillé de lin, descend dans la terre. Il boit l'eau de 2 sources, celle de l'oubli et celle de la mémoire. Il regarde une statue du héros qui aurait été faite par Dédale. Un grand bruit éclate. Le consultant reçoit un grand coup sur la tête. Les jointures de son crâne s'entrouvent. Et, dit-on, son âme s'échappe. Elle ne revient que plus tard. Le frappé se réveille petit à petit. Il est assis sur le trône de mémoire. Des prêtres lui font dire ce qu'il a vu et, très important, ils lui font récupérer sa capacité de rire. On ne sait pas si les émissaires de Crésus ont suivi tout ce processus. Ces émissaires ont une mission très précise. Ils doivent poser tous en même temps, dans 100 jours exactement, la même question à chaque oracle. Ils lui demanderont
« Ce qu'est en train de faire le roi des Lydiens, Crésus, fils d'Aliate. »
Ils noteront par écrit la réponse des oracles et la rapporteront à Crésus. Le jour dit, le centième jour, le roi se lance dans une activité totalement improbable. Bien malin, qui saura dire ce qu'il était en train de faire? Crésus prend une tortue et un agneau. Il les découpe et les met à bouillir dans un chaudron de bronze recouvert d'un couvercle. Les réponses des oracles arrivent. Celle de la prêtresse d'Apollon à Delphes, la Pythie, était juste. La Pythie s'est exprimée en vers, comme Homère.
Je sais le nombre des grains de sable et les mesures de la mer. Je comprends l'homme muet et entends celui qui ne parle pas. Une odeur est venue à mon cœur, d'une tortue au cuir robuste que l'on cuit dans le bronze avec des chairs d'agneau. Sous elle est couché le bronze et elle est couverte de bronze.
Incroyable. Crésus constate l'exactitude de la réponse. Les autres étaient fausses. Crésus se met à prier et déclare que l'oracle d'Apollon est le meilleur. Mais peut-être que Crésus a trop fait le malin. Les oracles parlent souvent par énigmes. Crésus a inventé une cuisine énigmatique, improbable, avec une tortue et un agneau. Cela, peut-on penser, ne rime à rien. Il a imité dans son action la manière de parler des oracles qui ont pu deviner. Mais quand l'oracle posera une vraie énigme correspondant à un fait réel, Crésus ne comprendra pas, il ne comprendra même pas que c'était une énigme.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe évoque les malheurs de Crésus, qui se croyait infiniment heureux.
Crésus sait désormais qu'il a un informateur puissant et un conseiller fiable, véridique, le grand dieu Apollon, dans son temple de Delphes. Le dieu pourra lui dire s'il doit attaquer les Perses, s'il sera victorieux. Mais encore faut-il gagner la faveur de ce dieu. Crésus amasse une quantité gigantesque d'or et d'argent. Il fait dresser une grande statue de lion en or pur. Il demande aux Lydiens d'offrir aux dieux tout ce qu'ils peuvent. Crésus joint toute une collection de vases, de jarres, d'objets précieux, sans compter. Tout cela est très solennellement porté à Delphes depuis l'Asie. La délégation chargée d'or arrive à Delphes et pose à Apollon la question fatidique, celle qui trouble tellement Crésus. Doit-il attaquer les Perses ?
Crésus, roi des Lydiens et d'autres peuples, pensant qu'ici sont les seuls vrais oracles qu'il y ait au monde, vous a fait don de présents dignes des marques de votre sagacité. Et il vous demande maintenant s'il doit faire la guerre aux Perses et s'adjoindre des troupes alliées.
La même question est posée au sanctuaire d'Amphiaraos à Thèbes. La réponse arrive. C'est exactement la même réponse qu'à Delphes. Elle paraît positive.
Ils prédirent à Crésus que, s'il faisait la guerre aux Perses, il détruirait un grand empire, et ils lui conseillèrent de s'adjoindre comme alliés ceux des Grecs qu'il aurait reconnus les plus puissants.
Crésus exulte. Il pense qu'Apollon et Amphiaraos lui annoncent sa victoire sur l'empire perse qu'il détruira. Il envoie à Delphes encore une quantité de dons. Mais en fait, il n'a même pas pris la peine d'écouter vraiment les mots de l'oracle. Le dieu lui annonce la destruction d'un grand empire. Mais de quel empire s'agit-il ? Crésus ne s'est pas posé la question. Il n'a pas imaginé que cet empire pouvait être le sien. L'oracle était très célèbre dans l'Antiquité, comme exemple criant de l'ambiguïté de la parole oraculaire. Crésus s'est fait piéger. Il voulait que le dieu lui dise « Vas-y, attaque !» ou « N'y va pas !» Crésus n'a pas entendu que dans la phrase du dieu, il y avait un silence. À la fois elle dit et elle ne dit pas. Elle ne dit pas quel est cet empire qui sera à coup sûr détruit. Crésus n'a pas su entendre la parole du dieu. Obsédé par les choses matérielles, par les conquêtes, il n'a voulu entendre que ce qu'il voulait entendre et n'a pas fait attention au langage. Il n'a pas compris que le langage ne dit pas directement les choses. Crésus part en guerre contre les Perses, contre leur roi, qui s'appelait Cyrus. L'affaire tourne très mal pour Crésus. Les Perses, invaincus, avancent vers la capitale de Crésus, Sardes. Les Lydiens, très bons cavaliers, terrifiants même, essayent de résister. Ils se regroupent sur leurs chevaux devant la ville. Mais le roi perse, rusé, envoie contre la cavalerie lydienne, non pas sa propre cavalerie, mais des chameaux. Or, les chevaux ne supportent pas l'odeur des chameaux, ça les rend fous. La cavalerie fléchie se retire, Sardes est prise. Crésus est fait prisonnier et amené devant le roi perse, Cyrus, qui décide de le brûler vif sur un bûcher. Peut-être, dit Hérodote, par curiosité, pour voir si cet homme, qui a été fabuleusement aidé par les dieux jusqu'à un certain point, sera sauvé par eux. Le feu prend, Crésus supplie Apollon, lui rappelle tout l'or qu'il lui a offert. Apollon l'écoute, fait pleuvoir, le feu s'éteint. Crésus, en fait, est devenu sage, plus sage. Il se lamente de ne pas avoir écouté Solon l'Athénien, qui lui disait que n'est heureux que celui qui garde son bonheur jusqu'au dernier moment, ce que Crésus n'a pas su faire. Il donne un conseil politique à Cyrus, son vainqueur, qu'il ne laisse pas ses hommes piller les trésors de la ville de Sardes, les Perses, qui étaient habitués à être pauvres, vont se révolter contre lui dès qu'ils auront pris le goût de la richesse. Cyrus, le Perse, est séduit par la sagesse de son prisonnier. Il le laisse libre, soumis, mais délivré de ses chaînes. Mais Crésus est amer contre Apollon, qui certes vient de le sauver des flammes, mais qui, par la bouche de la pitié, l'a poussé à attaquer les Perses, croit-il. Il fait envoyer à Delphes les chaînes qu'il a dû porter après sa défaite face au roi Perse. Elle signale, selon lui, l'ingratitude du dieu. Quand elle voit les chaînes, la pitié se moque de Crésus. Crésus a été un idiot. Il n'a même pas essayé de comprendre ce qu'Apollon lui disait. La Lydie est soumise aux Perses, qui, venus des lointains plateaux de l'Asie, menacent directement la Grèce. Tout cela à cause de l'orgueil et de l'indécence du roi Candole, de l'avidité de Gigès et d'Oracle mal compris. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker. La prise de son a été assurée par Mélissa Etroy. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.